RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Allez, on va faire nos gammes ce matin à la veille de la fête de la musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Jusqu'à là, on s'en sort. Le solfège. Parlons-en, cursus normal pour apprendre la musique pour certains. Le solfège est redouté par de nombreux aspirants musiciens. Il est souvent décrit d'ailleurs comme poussiéreux, complexe et rébarbatif, et il est parfois relégué au rang de vilain petit canard de l'éducation musicale. Mais cette réputation est-elle justifiée? Est-ce que le solfège est réellement l'ennemi juré de ceux qui souhaitent maîtriser un instrument? Je vous propose dans Je pense donc j'agis de démystifier le rôle du solfège dans l'apprentissage musical. Quels sont ses avantages et les méthodes modernes qui tentent de le rendre plus accessible et agréable pour tous? Et quelles en sont ses limites? Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Venez nous parler du solfège, hein, si vous en avez fait quand vous étiez enfant. Qu'en retenez-vous? Est-ce que vous aimiez cela ou alors c'était vraiment un exercice compliqué? Et vous en avez, sans mauvais jeu de mots, plein le dos. Venez témoigner 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et dans la seconde partie de l'émission, musique toujours et du chant choral. Quels sont les bienfaits de la chorale? Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes? Comme au moins jeune, on verra ça à 10h. En attendant, je vous présente nos deux invités. Je commence avec vous, Hervé Platel. Bonjour.
Bonjour.
Merci à l'équipe de RCF dans le Calvados à Caen qui vous accueille en studio. Vous êtes professeur de neuropsychologie à l'université de Caen-Normandie. Vous êtes également directeur d'une unité INSERM à Caen. Alors si vous êtes avec nous ce matin, Hervé Platel, c'est parce que vous avez étudié les effets de la musique sur le cerveau, tout simplement.
Tout à fait. Oui, oui. Avec notamment des techniques de neuroimagerie cérébrale. J'ai eu la chance, effectivement, d'être parmi les premiers à utiliser des gros appareils qui font un peu peur quand on va passer un examen donc médical. Donc, ce qu'on appelle des scanners, des IRM. Et donc, j'ai utilisé ces appareils pour regarder ce qui se passe dans le cerveau quand on écoute de la musique ou lorsqu'on la pratique quand on est musicien.
Et pourquoi vous êtes intéressé aux effets de la musique sur le cerveau?
Alors en fait, on se posait une question à l'époque quand j'ai commencé mes travaux. C'était comment était, organisé le cerveau au niveau des différentes fonctions, et notamment, on s'apercevait qu'il y avait des patients à la suite de maladies neurologiques, à la suite de lésions du cerveau, qui pouvaient avoir des troubles du langage, mais pas de troubles dans la perception de la musique, ou l'inverse, c'est-à-dire qui pouvaient avoir des troubles de la perception de la musique, mais pas de troubles du langage. Donc ça suggérait qu'il y avait une forme d'indépendance entre langage et musique, et ces premiers travaux, c'était une manière de confirmer comment était organisé le cerveau pour ces deux fonctions.
Merci Hervé Platel d'avoir accepté notre invitation. À nos côtés également, Florent Chola, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans cette émission. Vous êtes professeur de formation musicale. Vous êtes vice-président de l'APFM, c'est l'association des professeurs de formation musicale. Jusqu'à là, on ne se trompe pas. Cette association, c'est vraiment un lieu d'information, justement, et d'échange sur cette discipline. Florent?
Oui, tout à fait. Cette association, en fait, a été fondée par Odette Gartenlaube, qui était elle-même professeure de formation musicale. C'est une grande dame dans le monde de la musique, au-delà même de la discipline qu'elle enseignait. Elle était donc professeure à Paris. Et donc, en 1984, elle a fondé cette association qui était censée justement permettre aux professeurs de formation musicale, autrement dit donc de ce qu'on appelait auparavant le solfège, de se mettre en réseau afin à la fois de pouvoir partager leurs expériences, leurs connaissances et leurs témoignages, mais aussi et surtout pour réfléchir à la discipline qui effectivement a une historique un peu particulière. Et donc l'idée était d'aller dans le sens d'une réflexion, d'une modernisation, notamment à la lumière de toutes les avancées donc des méthodes actives et des réflexions autour de la pédagogie générale qui ont eu lieu donc dans le courant du XXe siècle.
Alors vous avez dit, Florent Chola, qu'on n'utilisait plus ce terme solfège. Il a été donc remplacé par apprentissage musical. Pourquoi ce changement ?
Alors, le terme de solfège est effectivement un terme qui aujourd'hui a tendance à avoir disparu, ou en tout cas que l'on essaye de faire disparaître. Alors moi, je suis vice-président de la PFM, donc Dieu sait si je défends la formation musicale, mais pour autant, je ne renie absolument pas le solfège, parce que déjà le mot en lui-même, il faut savoir que l'étymologie du mot est magnifique, hein, solfier, ça veut dire lire en sol et fa, donc lire en clé de sol et en clé de fa, puisqu'historiquement, ce sont les deux clés qui se sont imposées pour lire la musique, pour lire les instruments aigus, les instruments graves. Donc déjà, le mot par lui-même est unique et il a une très belle histoire. Et puis, au-delà de cela, même si aujourd'hui la formation musicale est une discipline qui a ses manières de fonctionner qui lui sont propres, finalement, il s'agit plutôt d'une histoire de forme que de fond. C'est-à-dire qu'en fait, le solfège, c'est la musique et la musique, c'est du solfège. Tout dépend comment est-ce qu'on le travaille. On aura peut-être l'occasion de le développer plus tard. Voilà. Mais il est vrai que, c'est avant tout une locution qui est apparue, qui a voulu correspondre à des changements de méthode. Voilà, mais on peut faire du très bon solfège.
Ce qu'on entend quand même dans ce que vous dites, c'est qu'on a tendance de nos jours à peut-être mettre un peu sous le tapis ce terme solfège. Pourtant, il parle à tout le monde, peut-être un peu plus qu'apprentissage musical.
Oui, complètement. Alors, il a été remplacé non pas par apprentissage musical, mais par formation musicale,
pardon.
Voilà,
oui.
Ça n'est pas grave. Mais il se trouve effectivement que cette locution formation musicale n'a rien de spécifique. Le professeur de clarinette, de cor ou de chant, qui est mon collègue au conservatoire, fait lui aussi de la formation musicale au sens générique du terme, puisque nous œuvrons tous à aider le jeune apprenti à se construire musicalement. C'est en ce sens-là qu'effectivement, je trouve cette locution est finalement un petit peu, on va dire, floue. Pour autant, le solfège, en fait, est connoté. En fait, il traîne son histoire. Il est vrai qu'il y a quand même une histoire du solfège qui n'a pas toujours été très heureuse. Ça, c'est aussi lié à l'histoire de l'enseignement de la musique en France, qui est en fait lié directement à la musique militaire et à quelque chose d'assez rigoureux, puisque c'est Napoléon qui a inventé le conservatoire, hein, en faisant un petit peu un raccourci. Donc, il y a cette notion de côté un petit peu, j'allais dire, enseignement magistral, ce côté un petit peu aussi coercitif, j'allais dire, et surtout le côté déconnecté de la musique. C'est en fait comme si le solfège finalement était quelque chose d'un peu abstrait qui est à côté de la musique. Voilà. Or, il est évident que, encore une fois, ça touche aussi au fait que la musique est un langage. Hein, on pourra en parler peut-être un peu plus tard.
Oui, tout à fait. On a une heure. De toute façon, Florent Chollat, donc on va prendre notre temps et puis on va prendre le temps également de vous écouter au 04 72 38 20 23 pour nous parler du solfège, hein, si vous en avez fait. Quel souvenir en gardez-vous? Est-ce que c'était une bonne chose d'après vous, ou alors c'était vraiment compliqué? N'hésitez pas à venir témoigner. Hervé Platel, que nous dit le solfège sur le cerveau?
Alors en fait, ce qu'on peut voir d'une part, c'est que dans les études qui ont été faites, alors je parlais tout à l'heure d'études utilisant les techniques de neuroimagerie, les musiciens sont devenus une population d'intérêt pour les neurosciences cognitives pour étudier ce qu'on va appeler les phénomènes de neuroplasticité. Il y avait beaucoup d'études qui s'intéressaient à des populations d'experts, par exemple comme les joueurs d'échecs. Et puis en fait, on s'est aperçu que les musiciens, c'était une population d'experts particulièrement intéressante. Mais si on pense à expertise, évidemment, on va se donner des critères d'expertise. Et ce qui fait que tous les travaux qui ont été réalisés dans une première vague, hein, qui démarre donc dans les années 1990 jusqu'à environ la moitié donc des années 2005-2010, eh bien, en fait, vont utiliser, que ce soit des études faites aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Japon ou ailleurs, vont utiliser des critères, si possible homogènes, pour définir qu'est-ce que c'est que cette population d'experts. Et c'est pour ça qu'on a essentiellement donc une première vague d'études qui s'applique à des musiciens qui savent lire la musique et donc qui maîtrisent le solfège. Alors après, on pourra revenir à la différence. Et est-ce que un musicien autodidacte, un musicien qui n'apprend pas le solfège, ce qui se passe dans son cerveau est de même nature à quelqu'un qui apprend le solfège. Il y a des petites différences en définitive, on pourra y revenir.
Oui.
Mais ce qu'a montré donc ces premières études en neuroimagerie, notamment sur une tâche tout à fait simple, si vous demandez donc à un musicien de faire soit ce qu'on appelle une lecture rythmique d'une partition, c'est-à-dire que c'est toujours la même note mais elle a des valeurs différentes, ou une lecture mélodique d'une partition, c'est-à-dire que là, on a donc des notes qui ont la même valeur de temps, mais qui changent oui. hein, au niveau de la hauteur, eh bien, on s'aperçoit que ce sont pas les mêmes réseaux cérébraux qui participent à la lecture rythmique et à la lecture mélodique. Autrement dit, pour la lecture rythmique, on va engager principalement des réseaux cérébraux, notamment comme le cervelet du cerveau, et puis des régions qu'on appelle notamment l'aire de Broca, qui est une région du cerveau qui est très impliquée pour tout ce qui est traitement séquentiel de l'information, et pas seulement d'ailleurs auditif. Mmh. Et donc, on voit que pour ce qui est de la lecture mélodique, on a l'implication de régions plutôt à l'arrière du cerveau, qui sont des régions associatives visuelles. Mmh. En fait, ce sont pas des régions dédiées au solfège, à proprement parler, parce que ce sont des régions qui vont servir aussi pour d'autres fonctions. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a des cas cliniques. Moi, j'ai en tête donc le cas d'une pianiste donc japonaise oui. Qui, à la suite d'une lésion cérébrale, justement, de ces régions donc associatives visuelles à l'arrière du cerveau, eh bien, était dans l'incapacité de faire correctement une lecture mélodique de partition, c'est-à-dire qu'elle faisait des erreurs dans sa lecture, alors que la lecture rythmique était parfaite. Ah, oui. Donc, ce qui montre bien qu'il y a, en fin de compte, une forme d'indépendance entre les deux facultés.
Ah bah voilà, on se plonge dans les coulisses du cerveau avec le solfège, c'est assez passionnant. On va entendre Romain au 04 72 38 20 23. Romain, bonjour.
Oui, bonjour Melchior.
Vous êtes dans la Manche, on vous écoute.
Oui, alors je voulais juste apporter un petit témoignage personnel et puis aussi professionnel. Oui. Donc moi, à titre personnel, si vous voulez, quand j'étais enfant... j'aimais le solfège, j'ai eu la chance, je pense, aussi peut-être de tomber sur des professeurs qui ont réussi à nous faire aimer voilà les différentes parties du solfège. Voilà, et là j'appelais aussi parce que effectivement moi je suis coordinateur d'une petite école de musique, voilà, à 40 ans dans la baie du Cotentin dans la Manche.
Oui.
Et on n'a pas voulu rendre le solfège obligatoire dans notre école, et force est de constater que la fréquentation et ben en fait elle souffre de l'image un peu
ah oui.
du solfège qui est quelque chose d'austère, d'ennuyeux, etc., etc. Alors l'année prochaine, on essaye de trouver une petite parade en fait à la rentrée prochaine en proposant du solfège chantant ou de la formation musicale chantée, si on veut. C'est-à-dire que l'enseignant qui sera face aux élèves, ce sera voilà un peu un mix entre chorale et solfège, c'est-à-dire mmh. qu'ils vont principalement chanter, mais toutes les notions qu'ils vont aborder au cours du chant seront expliquées, voilà, donc ils seront debout finalement face au piano oui. et au tableau
voilà, et c'est une manière différente d'apprendre
voilà,
la musique
voilà. Donc on présente ça comme une chorale solfiée, enfin c'est
ouais. voilà, il faut trouver le nom
enfin, mais... nous on appelle ça la chorale enfant, mais en fait ça va être voilà une forme d'invitation au solfège où après ils pourront peut-être en ayant
aller un peu plus
contact
loin.
Avec ouais. le professeur, voilà, aller un peu plus
merci
loin.
Merci Romain.
C'est vrai qu'il y a l'image il y a une image qui est toujours assez austère en fait. Avec
ouais.
On a beau changer de nom, si vous voulez, formation musicale.
Oui, c'est ça. Ouais.
Dire que voilà, on ouvre les oreilles, que voilà, c'est pas forcément que la lecture, c'est ben, voilà, il y a quand même cet aspect un peu difficile quoi de
ouais. du. Et ben c'est très intéressant Romain, et merci beaucoup d'avoir témoigné, parce que ça nous donne du grain à moudre pour cette émission. Il y a plein de choses à dire. Florent Chola, déjà sur la première partie du témoignage de Romain, qui nous disait ben voilà, moi j'ai fait du solfège petit, j'ai bien aimé, et il nous dit j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui a su me transmettre la musique. Finalement on connaît la même chose au sein de l'éducation scolaire.
Oui, en fait, je pense effectivement que la personnalité de l'enseignant et ce qu'il est intrinsèquement, notamment dans l'interaction humaine, fait énormément. Alors, bien évidemment, c'est vrai pour toute forme d'enseignement et c'est vrai aussi notamment pour l'enseignement de l'instrument. Sauf que, effectivement, l'instrument en lui-même est une star dans le cours et le professeur, finalement, est une espèce de star numéro 2. Donc, l'élève, en fait, bade à la fois devant l'instrument et devant son professeur. Il y a ce côté magique de l'instrument, du son qu'il représente, de l'objet qu'il est, de l'odeur qu'il peut avoir, etc., etc. En formation musicale, évidemment, non pas que l'instrument n'y ait pas sa place, puisqu'il y a de très nombreux professeurs de formation musicale qui font rentrer l'instrument dans la classe, et c'est très bien. Mais pour autant, et personnellement, je fais partie des enseignants qui défendent cela, le rôle même de ce cours, c'est de développer la propension musicale transversale qui, après, se prolonge à l'instrument, l'instrument étant, au sens étymologique, un organon, c'est-à-dire le prolongement du corps. Mais que l'on soit violoncelliste, chanteur ou harpiste, à un moment donné, nous devons maîtriser ce langage qu'est le langage musical. Et c'est là notre rôle à nous, professeurs de formation musicale, de développer ces connaissances-là. Et effectivement, il y a mille manières de le faire. Et en fonction de la personnalité de l'enseignant, ça peut être plus ou moins ludique, plus ou moins agréable, plus ou moins magique, etc. Force est de constater que la musique étant un langage, on l'a déjà dit, et oui. M. Platel parlait tout à l'heure de ces zones du cerveau qui sont activées, donc l'aire de Broca, qui est aussi une zone qui est très utilisée quand on est en situation de langage, enfin quand le langage est activé. Donc il y a une vraie langue à apprendre, et c'est là où effectivement nous pratiquons une musique qu'on appelle le répertoire souvent, qui est quelque chose qui est écrit sur des partitions. Donc nous avons cette nécessité de prendre contact avec un document écrit sur lequel les petites boules noires sur des lignes vont être finalement le support d'émotions qui sont magiques et qui transportent la terre entière. Donc vous imaginez bien que pour que la magie puisse opérer, il faut quand même maîtriser au minimum ce langage qui est complexe. Et c'est ça qui est en fait extrêmement difficile. C'est le hiatus qui peut être apparent dans le cerveau d'un jeune apprenti, d'un enfant qui n'a pas encore la possibilité d'abstraction, de se dire, ben voilà, cette partition de Mozart ou cette chanson des Beatles, finalement, ces petites boules noires, c'est aussi ce qui fait qu'après j'ai la chair de poule. C'est ça qu'il faut arriver à faire sentir. Et c'est là, à mon avis, que le professeur dont parlait Romain a dû savoir faire cela. Donc c'est moi, ça. j'ai eu aussi des professeurs qui étaient plus ou moins doués pour cela. J'essaye à mon endroit de l'être. Et il est vrai que quand un gamin vous dit à la fin du cours de formation musicale d'une heure et demie, ah, c'est déjà fini, ça veut dire que vous êtes dans cette dimension-là.
Hervé Platel, je me tourne vers le professeur de neuropsychologie que vous êtes. On entendait Romain nous dire à quel point, on va dire, il a pris du plaisir aussi à vraiment apprendre le solfège. Moi, ça me fait penser à la molécule du plaisir, la dopamine. Est-ce que ça change quelque chose au niveau du cerveau quand on aime, dans le cadre du solfège, quand on aime ça?
Ben c'est évident, je pense que pour toute méthode pédagogique, ce qu'on recherche, c'est de maintenir la motivation de l'apprenant et qu'il ait du plaisir au bout du chemin, qu'il y ait une récompense au bout du chemin. Et de ce point de vue-là, ce qu'on appelle le circuit de la récompense porte bien son nom. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à construire son plaisir. Et donc le cerveau aime bien en fait ce jeu d'attente. C'est-à-dire, ce qui est important dans le plaisir, c'est l'attente aussi, comme on dit à Noël, hein, on prend presque plus de plaisir donc à l'attente du cadeau que quand le cadeau est là. Donc je pense que c'est vraiment très important d'avoir cette approche, donc d'apprendre à avoir du plaisir. Il y a des moments effectivement dans l'apprentissage où il y a la répétition, où il y a l'entraînement, et c'est vrai pour le sport, c'est vrai pour la danse, c'est vrai pour la musique, où il y a des moments effectivement où on peut ça peut être un peu difficile au début parce qu'on maîtrise pas, par exemple, complètement, c'est pas fluide, donc ça demande un effort. Et en fait, il faut qu'il y ait la récompense au bout de cet effort. Et ça, c'est, je dirais, la qualité du pédagogue, d'arriver à montrer, en fin de compte, la récompense au bout du chemin.
Bonjour Dorothée.
Oui, bonjour.
Bonjour Dorothée, vous êtes à Ferney-Voltaire, à côté de Genève.
Oui, tout à fait.
On vous écoute.
Moi, le solfège, pour moi, ça a toujours été un plaisir. J'ai commencé à 4 ans. Et effectivement, c'était aussi le professeur qui me conduisait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Platel. Il y a la notion de plaisir, mais il faut aussi que quelqu'un soit derrière vous. Et c'est essentiellement quand vous avez 4 ans. Mais je crois que c'était naturel chez moi. C'est venu tout naturellement. Moi-même, j'ai enseigné le solfège auprès de petits enfants. Et je dois dire qu'il faut que ça soit ludique aussi. Donc j'ai demandé aux parents de ramener des petites tapinettes en bois et des couvercles de casseroles pour apprendre le rythme, pour entendre et essentiellement écouter les autres. Et je crois qu'il ne faut surtout pas baisser les bras, parce que c'est vrai que c'est pas facile, mais auprès des enfants, surtout continuer si vous aimez ça. Et si vous tombez sur un prof qui est sympa, ça peut faire que du bonheur, quoi.
Eh bien, merci beaucoup, Dorothée. Merci pour votre appel au 04 72 38 23. On entendra Marie-Josée et Hugues dans quelques minutes. Hervé Platel, voilà, on parlait de plaisir. Là, on entend plus même du bonheur de la part de Dorothée.
Oui, alors ça, comme elle l'a dit, hein, c'est vraiment personnalité dépendante. Hein. Il y a des enfants, effectivement, qui vont trouver tout de suite, je dirais, la note qui leur convient d'un point de vue de l'effort qu'il y a à fournir. Et pour eux, c'est pas un effort. Je pense qu'il y a plein de manières de présenter de manière ludique le solfège. On peut faire un parallèle avec le débat qu'on peut avoir là avec, en fait, l'apprentissage des mathématiques. Les mathématiques, c'est aussi un langage. C'est un langage qui peut paraître abstrait, qui peut paraître difficile, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est la récompense qu'on a quand on maîtrise en fin de compte les codes de ce langage et qu'on est en capacité effectivement de le manipuler. Et alors là, d'un seul coup, on atteint une autre dimension en fin de compte dans le domaine dans lequel on travaille, c'est-à-dire qu'on atteint un niveau de puissance formelle qui est beaucoup plus important. On pourra revenir d'ailleurs sur ce débat qui n'est pas clos, hein, sur le fait que est-ce que, en définitive, même si j'ai pas accès au solfège, je peux pas avoir une expertise de même niveau. Donc, dans le domaine de la musique, ben, on pense notamment aux musiciens de jazz, qui, avec des exemples bien connus, de gens qui ont acquis une expertise en musique sans passer initialement par le solfège. Mais je pense que, en définitive, tous ces exemples nous ramènent aussi, dans tous ces exemples, on va voir que ces personnes, en fait, vont avoir une culture de la musique qui est extrêmement élaborée, avec, en revenant après au traité d'harmonie, à différents types de connaissances qui permettent, comme pour les mathématiques, de manipuler un langage, un langage symbolique,
un vrai langage,
de manière extrêmement puissante.
Florent Chola, on entend tout à l'heure, on entendait Romain nous dire à quel point finalement le solfège véhiculait avec lui de nombreux clichés, un côté poussiéreux, et c'est ce que j'ai dit en introduction tout à l'heure, un peu rébarbatif. Est-ce que cette réputation est justifiée, ou alors c'est plutôt lié à, il y a quelques années, la seule manière d'apprendre la musique, c'était de passer par solfège?
Je dirais les deux, mon général, en fait.
Comme va.
Voilà. Il est vrai que le solfège, alors pour le coup, j'utilise le mot à l'ancienne, a encore une fois été déconnecté du plaisir, de la. En fait, il y avait une déconnexion avec l'émotion. Je pense qu'il y a un trajet à respecter. Il faut aller dans le bon sens. Si vous prenons l'exemple de vouloir faire découvrir à un enfant ce que c'est que le chocolat, et vous commencez à lui décrire que c'est marron, que c'est froid, mais que ça fond si on le chauffe, que ça a un goût agréable, etc., vous pouvez lui parler pendant une heure. Il va vite décrocher, et finalement, tant qu'il n'aura pas eu le chocolat en bouche, je pense pas qu'il ait beaucoup d'intérêt pour le discours que vous lui portez. Alors que si vous commencez par lui mettre, sans rien dire, un morceau de chocolat dans la bouche et que vous le laissez savourer, après vous pouvez peut-être lui en parler pendant une demi-heure ou une heure, ça va faire sens, parce qu'évidemment, ça va donner une explication, ou en tout cas, ça va faire, il va y avoir un lien avec l'émotion qu'il a ressentie. Je pense que l'erreur qui a été pendant trop longtemps pratiquée, c'était justement de partir du langage musical pour aller vers la musique. Alors que bien évidemment, le langage est toujours une formalisation de ce que l'on fait, de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit. Et donc, pour rejoindre cette notion de plaisir dont on a parlé, et je rejoins bien évidemment Monsieur Platel, que j'ai lu d'ailleurs et qui en parle très bien, c'est, l'important, c'est que la notion de plaisir soit aussi liée à un dépassement de soi. La musique est quelque chose d'effectivement de difficile, ça demande beaucoup d'abnégation, ça prend du temps, ça demande de l'effort. Parfois, on a l'impression qu'on progresse, puis on progresse pas, puis ça se débloque d'un coup. Bref, c'est un parcours du combattant. Par contre, lorsqu'on y arrive, il y a effectivement là quelque chose de très fort qui se déclenche. Et par le jeu de la mémoire, après, évidemment, une fois que c'est arrivé, on peut arriver à comprendre que ben voilà, le chemin est long, mais qu'on arrive à ce genre de plaisir. Ça, il faut l'avoir dès le cours de formation musicale. Donc, partir de la musique pour aller vers le langage, je pense que c'est le bon chemin. Et c'est là où, effectivement, quand je dis l'adieu mon général, juste pour conclure, ben, la personnalité, évidemment, de l'enseignant va faire toute la différence. Parce que si vous arrivez avec une feuille sur laquelle il y a du rythme et que vous dites aujourd'hui, on va travailler les doubles croches, l'enfant sera moins motivé que si vous lui faites écouter un morceau, si vous le faites frapper votre corps ou si vous lui faites écouter je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir une attaque différente.
On tend vers ça avec la formation musicale de nos jours. Alors, rapidement.
Le grand principe de la réforme de la formation musicale, il y a plusieurs idées, mais on va dire les deux idées principales, c'était donc partir de l'apport des méthodes actives, qui étaient donc des méthodes qui, comme l'on l'indique, on apprend en faisant. D'accord. Donc il y a une notion d'être en mouvement, d'être en action, hein, que le cerveau soit dans cette dimension-là pour l'apprentissage. Et la deuxième chose, c'est de faire le lien avec le répertoire. C'est-à-dire que si je dois apprendre des notions solfégiques, des notions musicales qui sont basales, je vais passer par une symphonie Mozart, une chanson de Michael Jackson ou une musique traditionnelle du Congo, peu importe. Mais en tout cas, je pars de quelque chose qui est vécu musicalement, qui est concret et qui du coup donne du sens à ce vers quoi je vais aller.
Allez, on va marquer une petite pause. Non, je pense donc j'agis. On se retrouve dans un instant. Hervé Platel et Florent Chola. On écoutera Marie-Josée et Hugues au 04 72 38 20 23. Vous continuez de nous appeler pour nous parler du solfège. Si vous en avez fait, est-ce que vous aimiez à l'époque ou alors c'était très compliqué? Tout le monde a la parole. C'est la veille de la fête de la musique. Alors profitez-en. Direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. À tout de suite.
Je pense donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense donc j'agis, on parle du solfège ce matin. Est-ce que le solfège est le vilain petit canard de l'éducation musicale? On voit ça avec nos deux invités. Hervé Platel, on va écouter de la musique quand même, tant qu'à faire, hein, quand on parle de musique c'est mieux. Vous avez choisi d'ailleurs un extrait de la 9e symphonie de Beethoven qu'on connaît un peu plus comme l'ode à la joie. Pourquoi ce choix?
Mais je me suis dit que en ces temps un petit peu perturbés, bon, remettre de la joie et remettre effectivement ce symbole de l'union des peuples était pas complètement inaudible.
Oui. Florent Chola, vous confirmez, vous validez?
Je valide tout à fait. Je trouve que c'est un très bon choix, très subtil. Bravo, Monsieur Platel.
Alors on écoute, c'est parti. Et puis ça va vous laisser le temps de nous appeler au 04 72 38 20 23. Bonne écoute. Thank you. L'ode à la joie, c'était la 9e symphonie de Beethoven pour vous accompagner en ce jeudi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
On parle du solfège ce matin dans Je pense, donc j'agis avec nos deux invités. Hervé Platel, je rappelle que vous êtes professeur de neuropsychologie à l'université de Caen-Normandie, et Florent Chollat, professeur de formation musicale, vice-président de l'APFM, l'association des professeurs de formation musicale. Bonjour Marie-Josée.
Oui, bonjour à tous. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Ma sœur était professeure de piano pendant toute sa vie. Et quand elle commençait, je me rappelle, j'étais aussi à la maison. On avait des pianos différents dans toute la maison. Mmh. Et elle recevait donc ses petits élèves à la maison aussi. Et pour les initier au rythme, elle avait des disques de tambour. Et c'est vrai que le tambour, la musique, même la musique militaire, je ne sais plus ce qu'elle avait comme musique, mais je me rappelle ces disques de tambour qui m'avaient surpris, parce que quand j'ai appris la musique, c'était quand j'ai appris le solfège,
oui.
C'était pas du tout rigolo.
Eh ben merci beaucoup Marie-Josée, voilà des disques de tambour pour peut-être apprendre en tout cas le rythme. Florent Chollat, ce qu'on entend quand même à travers les différents messages ce matin et les témoignages, c'est à quel point il faut trouver des manières peut-être différentes de transmettre ce langage de la musique.
Exactement, et c'est toute la difficulté, parce que lorsque vous vous êtes donné un cours de formation musicale, c'est un cours qui, dans les conservatoires, fait partie des pratiques collectives, n'est-ce pas ? À l'inverse du cours d'instrument, qui, la plupart du temps, est quand même un cours qui se fait seul à seul avec le professeur. Donc, lorsque vous êtes enseignant, que vous avez en face de vous, en général, entre 10 et 15 élèves, et que vous devez donc transmettre cet apprentissage du langage musical, bien évidemment, la réalité des cerveaux qui se trouvent en face de vous est différente. Chaque cerveau est singulier, et l'on sait très bien que un item ne va pas rentrer avec la même efficience dans tel ou tel cerveau en fonction de comment ce dernier est configuré. Ce qui oblige le professeur de formation musicale, ou en tout cas ce qui le convoque, à être en recherche permanente pour multiplier ses axes d'attaque, si je puis dire, ou ses présentations, afin de parler au plus grand nombre. Et du coup, ça veut dire que vous devez à la fois donc faire preuve de cette inventivité. Alors ça, vous pouvez éventuellement le faire en amont, hein, lorsque vous préparez votre cours, en cherchant les différentes possibilités que vous avez de présenter telle ou telle chose. Mais surtout après, et c'est là tout l'art de ce métier, il faut être on pourrait dire aujourd'hui en mode radar permanent. C'est-à-dire qu'il faut scruter dans les attitudes corporelles, dans les regards et dans les manifestations des différents élèves. Comment est-ce qu'il se trouve, de manière à pouvoir deviner si ça a été compris, si ça a été saisi ou si ça ne l'est pas. Parce qu'effectivement, si sur 12 élèves, il y en a deux qui ont parfaitement compris, deux qui n'ont strictement rien compris, et le reste c'est moyen, ben, oui. Vous n'avez absolument pas rempli votre contrat. Donc c'est pour ça effectivement que, ce qui est très parlant, c'est marrant cet exemple de Marie-Josée, ce que je parlais du côté militaire du solfège qui avait notamment participé à son impopularité, et voyez comme cette dame, en fait, avec cette idée de prendre un tambour militaire, donc Dieu sait si le tambour militaire s'est réglé à la baguette sans jeu de mots, ça parlait à ces élèves-là. Oui. Donc, encore une fois, on voit bien que c'est juste une histoire de forme, de présentation. Et surtout, il n'y a pas une manière de faire. Il y en a des milliers. Le tout, c'est de trouver la bonne en fonction de qui est en face.
Avant d'accueillir Hugues et Martine, un message de Catherine qui rend hommage à ma prof de piano qui m'a mis tout de suite devant un piano. Avant tout solfège, sait-on l'origine mortifère de cet enseignement du solfège déconnecté de l'instrument ? Catherine, elle nous dit également, l'enseignement au collège de la musique pendant lequel les élèves ne touchent pas un seul instrument me paraît un éteignoir, je sais pas si ça se dit ça, du plaisir qu'est l'apprentissage de la musique. Hervé Platel, je crois que vous êtes plutôt d'accord avec ça, avec tout ce que vous nous avez dit depuis le début de cette émission.
Oui, tout à fait. Et puis, je pense que parmi les parallèles qu'on peut faire entre, je dirais, le solfège, la musique, tout à l'heure, j'ai parlé des mathématiques, mais si on y réfléchit bien, bah, on a en fait la même problématique dans l'apprentissage, simplement de la lecture et de l'écriture à l'école. On voit bien que bah, ça va pas de soi, que pour beaucoup d'enfants, apprendre à lire et à écrire, bah, ça peut être un peu douloureux, pour des raisons diverses d'ailleurs, et bah, que on peut apprendre à lire et à écrire de manière ludique, de manière moins ludique. On sait qu'il y a des méthodes qui fonctionnent pas trop mal, comme les méthodes B.A.B.A., mais après, bah, il y a le pédagogue, et puis il y a la personnalité donc de l'apprenant. Donc, je pense que tout ça, fait que c'est une métaphore qui fonctionne bien aussi, et si je reste sur le langage, en fait, on se dit souvent « Ah, mais le solfège, bah, au bout du compte, ça va me servir à quoi ?» Bah, si on le maîtrise parfaitement, j'insiste sur parfaitement, c'est-à-dire que véritablement, quand on lit une partition, après, ben, on entend la musique. Ça, c'est effectivement aller au bout, effectivement, de cet apprentissage. Ouais. À ce moment-là, ben, on est comme, en fait, on est comme quelqu'un qui lit un beau roman. C'est-à-dire que ben, apprendre à lire et à écrire, c'est peut-être pas marrant, mais au bout du compte, c'est quoi la récompense ? C'est qu'on peut lire de la poésie, on peut lire la Bible, on peut lire tout un tas de choses, et puis d'un seul coup, en fin de compte, les mots prennent une consonance. Ben, en fait, ces symboles assez abscons, eh bien, ils deviennent, en fin de compte, des sentiments, des émotions.
Mmh. Maîtriser le solfège, ça veut dire être capable de lire une partition sans problème. C'est ça ? Hervé Patel,
bah, en tout cas, in fine, c'est pour ça que, en fait, beaucoup de gens, je dirais, en ont, moi-même d'ailleurs, hein, en ont effectivement un souvenir pas forcément très très agréable. C'est que on en est resté que au début du chemin, c'est-à-dire au début du chemin sur le fait que d'essayer de comprendre cette relation entre des symboles, un langage et puis ce que ça signifie en termes de sons produits. Alors que si on va au bout, en fin de compte, de l'apprentissage de cette langue, eh bien, en fait, musique et solfège sont fusionnés. On a, en fin de compte, une représentation de la musique par la représentation de cette langue.
Bonjour, Hugues.
Bonjour, Melchior. Bonjour à votre invité. Bonjour à tout le monde.
On vous écoute. Allez-y, Hugues.
Oui, alors moi, j'ai terminé mes années de solfège. Je fais la pratique d'un instrument. Je me rappelle que j'avais quand même des difficultés, que le solfège, j'accrochais pas forcément. Donc voilà. Donc du coup, le sujet, ça me touche. Donc c'est pour ça que je tenais
à témoigner,
ouais.
Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas à l'époque dans le solfège, Hugues ?
Je pense que je préférais la pratique de l'instrument et je crois que j'avais des difficultés, je pense, même si j'ai terminé mes études de solfège et voilà.
Oui, ça vous plaisait pas, on entend Hugues, et merci vraiment d'avoir pris le temps de témoigner. Florent Chola, pardon, je me trompe entre les prénoms. Est-ce qu'il faut, pardon, je vais y aller un peu cash, est-ce qu'il faut forcer un enfant ou un jeune qui veut apprendre la musique mais qui n'aime pas le solfège ? Ça, c'est une grande question. Ouh là là, Florent.
Oui, c'est une grande question, mais elle se pose quotidiennement dans les conservatoires et les écoles de musique. C'est une question qui est délicate, puisqu'en fait, on l'a dit un petit peu en début d'émission, et j'aimerais y revenir. N'oublions pas que nous parlons d'une pratique de la musique, qui est une pratique de la musique dite savante. Alors ce mot, je mets des guillemets, parce que il y a du savoir, d'ailleurs Monsieur Platel le disait tout à l'heure, dans toutes les musiques et dans les musiques orales, bien évidemment, il y a un immense savoir. Mais je parle du savoir écrit, du savoir, j'allais dire, du livre, hein, le côté écrit. Et donc, cette musique que nous pratiquons, qui est une musique que nous interprétons, qui nous a été léguée par des compositeurs et qui sont aujourd'hui couchés sur des papiers, nous nous oblige effectivement à maîtriser le langage musical écrit pour pouvoir aborder le répertoire et pour pouvoir le faire sien. Pour autant, il y a mille autres manières de faire de la musique sans passer par la voix écrite. Et on parlait tout à l'heure du jazz, Monsieur Platel parlait de musiciens de jazz. Les plus grands noms qui ont marqué l'histoire du jazz, la plupart du temps, ne savaient pas forcément lire la musique. Et ouais. Dieu sait si ce sont des d'immenses génies. Et d'ailleurs,
je vous coupe, mais c'est parce que comment m'exprimer? Disons que quand on est autodidacte, on improvise beaucoup plus facilement et on sait faire. Et c'est vrai que dans le jazz, qui demande énormément d'improvisation, pas uniquement, ça demande un vrai talent musical, mais en tout cas, le jazz est peut-être moins exigeant en termes de perfection de lecture d'une partition, à l'instar de la musique classique.
Exactement. Il y a pour ainsi dire trois dimensions dans la pratique musicale écrite. Nous avons effectivement le domaine de la partition qui est le point de départ. C'est comme une espèce de référent que nous allons analyser, nous allons le décoder puisque c'est du codage, on le décode. On imagine un son et Monsieur Platel disait tout à l'heure que quand on va au bout de la démarche, effectivement, c'est le chef d'orchestre qui lit une symphonie et qui l'entend intérieurement. Donc là, on est vraiment au sommet de l'art musical au sens écrit du terme. Donc il y a ce premier point de départ. Le son donc est imaginé par le musicien et ensuite il va falloir mettre en œuvre le son avec un instrument ou avec une voix. Et effectivement, l'énorme avantage que le musicien accomplit au niveau du solfège, c'est que comme le référent, il l'a intérieurement, s'il fait des erreurs dans la mise en œuvre sonore, il va avoir l'autonomie de dire « Ah non, c'est pas ce qui est écrit ». Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui dire « Non, tu vois, tu as mis le doigt à côté » ou « Ton fa, tu as oublié de mettre le dièse », etc. Donc, en ce sens-là, effectivement, c'est magique d'avoir ce niveau-là de formation musicale. Mmh. Mais force est de constater que, d'une part, sur la planète entière, il y a plus de musique orale que de musique écrite, bien que la musique occidentale ait pris énormément d'importance et qu'elle soit aujourd'hui jouée partout sur la Terre. Il y a beaucoup plus de musique qui est jouée dans la tradition orale. Et ensuite, parmi tous les musiciens apprenants, et là je reviens aux élèves des conservatoires, il y en a qu'un petit pourcentage qui va accéder à un niveau professionnel pour aller dans les grands orchestres ou encore plus faire une carrière internationale. Donc ça relativise effectivement ce côté absolu de la maîtrise de la partition. Pour autant, on ne peut pas non plus imaginer dans un conservatoire qu'un enfant puisse faire des études instrumentales qui le mènent à une pratique où il va pouvoir jouer en orchestre, jouer en musique de chambre, etc. s'il n'y a pas ce contact avec la partition, parce qu'encore une fois, c'est notre tradition. Donc il faut trouver ce juste milieu. Et je voudrais juste dire une petite chose sur le témoignage de Hugues. En tant que professeur de formation musicale, j'ai eu de très 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 nombreux élèves, évidemment, et notamment au Conservatoire de Toulouse, où j'ai travaillé pendant 20 ans avec des musiciens qui ont fini par percer dans tous les domaines, musique actuelle ou musique classique, et puis d'autres qui sont restés de simples amateurs, mais j'ai eu des élèves qui témoignaient comme lui de certaines difficultés. Bien évidemment que non, il ne faut jamais forcer un élève, ni jamais le... parce que ça crée des traumas sur quelque chose qui déjà est tellement dans l'émotionnel.
Et un dégoût.
Et un dégoût, un dégoût exactement, et ça peut être fatal.
Ouais. Voilà. Avant d'accueillir Martine et Anne-Marie, Hervé Platel, un mot sur les autodidactes. On n'en a pas beaucoup parlé, pourtant ils font partie aussi du jeu dans la musique. Donc plutôt des personnes, je sais pas si on peut essayer de définir, mais qui ont l'oreille musicale, voire l'oreille absolue, qui sont incapables de lire une partition parce qu'ils n'ont peut-être pas du tout envie ou parce qu'ils ont été justement un peu dégoûtés par le solfège, mais pourtant qui sont complètement capables de jouer de la musique en improvisant, en essayant de reconnaître les accords, voire les notes. Est-ce qu'ils ont des capacités, si ce n'est supérieures, mais en tout cas égales à aux capacités d'un musicien qui apprend le solfège?
Ils ont des capacités, évidemment, et certaines capacités d'ailleurs de représentation et de stratégie de représentation de la musique. Quand on voit ça, je dirais notamment en faisant référence à des études de neuroimagerie, qui peuvent être expertes aussi et particulièrement puissantes. Donc, comme on vient de le rappeler, il n'y a pas que le solfège. On peut avoir une pratique musicale sans solfège. Et simplement, il faut le voir comme ça, que le solfège peut être un atout, peut être intéressant pour accéder à certaines dimensions de la pratique musicale, mais ce n'est pas forcément indispensable. Par contre, si je voulais donner une petite motivation aux enfants qui vont dans les conservatoires, dans les écoles de musique, et puis à qui on propose donc l'apprentissage du solfège, je dirais que ce que les études de neurosciences cognitives nous apprennent, c'est qu'il y a bien un effet solfège sur ce que l'on constate des les effets de l'apprentissage de la musique chez les enfants qui commencent justement à cet apprentissage. Parce que on va voir qu'ils vont assez rapidement avoir des performances, notamment ce qu'on appelle en mémoire immédiate, dans la capacité à manipuler de l'information visuospatiale, qui va augmenter et qui va être de plus en plus puissante et performante. Et parmi d'autres, je dirais, effets donc cognitifs de l'apprentissage de la musique. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que il faut leur dire, si tu apprends le solfège, eh bien en même temps, l'apprentissage du solfège va aussi t'aider à booster, à stimuler certains mécanismes qui vont être utiles pour toi aussi dans les apprentissages scolaires un peu généraux. Et de manière assez inattendue, c'est ce qu'on peut appeler des effets de transfert, en fait, apprendre le solfège, c'est très intéressant pour aussi mieux apprendre les mathématiques, la lecture, l'écriture, etc. Donc, en définitive, c'est pas du temps de perdu, même si au bout du compte, on n'aime pas particulièrement ça.
Allez, continuons de vous écouter au 04 72 38 20 23. Est-ce qu'on a Martine de Bordeaux ? Bonjour Martine. Alors, Martine a raccroché. Peut-être Anne-Marie. Est-ce que vous êtes là, Anne-Marie ? Anne-Marie qui habite sur Lyon. Est-ce qu'on a quelqu'un ? J'ai l'impression qu'on a...
Oui.
Ah, Anne-Marie ?
Oui, bonjour.
Bonjour Anne-Marie, on vous écoute.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Je téléphone parce que je voulais parler d'un de mes neveux qui est autiste depuis tout petit, et qui ma sœur l'avait inscrit à des cours de piano, étant tout petit, de solfège et tout, par une dame qui était à la retraite. Et depuis, il joue du piano avec des partitions de musique, et il fait partie d'un petit conservatoire de musique au Puy-en-Velay, où il a 34 ans maintenant, et moi je le trouve surdoué en musique. Il était surdoué en musique classique et tout. Et ma sœur, régulièrement, le fait entraîner sur son piano avec les partitions de solfège.
Oui.
Et moi, il m'épate parce que tout ce que j'ai voulu faire étant plus jeune, alors j'ai pianoté sur des pianos, j'ai suivi des cours de musique à l'école avec un professeur qui était aveugle. Et il nous est passé de la musique aussi sur les tourne-disques. Et mon neveu, il ne fait pas de conversation. Par contre, il joue sublimement du piano et fait partie d'un petit orchestre.
Eh ben, merci beaucoup Anne-Marie, c'est un beau témoignage. Hervé Platel, on sort un petit peu du sujet, mais peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots sur fois l'autisme et la musique.
Tout à fait. Alors moi, j'ai rencontré aussi d'autres personnes autistes, enfants ou adolescents ou adultes, qui avaient une sensibilité tout à fait remarquable à la musique. Donc l'autisme n'empêche pas effectivement cette sensibilité. On voit souvent d'ailleurs, alors avec chez les autistes, et ça semble être le cas, notamment avec retard de langage ou très grande difficulté à pouvoir maîtriser le langage. Cette sensibilité à la vibration sonore, et puis parfois, mais c'est plus rare, et cette capacité tout à fait incroyable, de cette facilité à pouvoir associer le symbole visuel avec le son et d'en faire un jeu, en fait, de très rapidement, un jeu intellectuel qui leur permet d'exprimer, je dirais, une capacité dans le domaine musical, alors même que, de manière surprenante, ils sont quasiment muet, par ailleurs.
On a retrouvé Martine. Bonjour. Ah, décidément. Martine, vous êtes là ?
Oui, bonjour, Martine.
Ah, ça y est.
Je suis contente de vous avoir.
Avec plaisir, on vous écoute.
J'ai une chose intéressante à vous dire qui est très peu connue. Ce sont les origines de ces notes de solfège, do, ré, mi, pourquoi do, pourquoi ré. Eh bien, je vais vous le dire.
Oui.
Ça vient de la première strophe de l'hymne à Saint-Jean-Baptiste. Alors, je vous la donne d'abord en français. La voici. « Pour que vos serviteurs, à gorge déployée, puissent de votre vie exalter les hauts faits, enlever aux Saint-Jean de leurs lèvres souillées toute l'impureté. » Alors, en latin, c'est en latin que ça se passe.
Oui.
Cette strophe, ça donne « out », et voilà le fameux « out » qui étonne toujours quand on est à do, ré, mi, fa, sol. « Out »« Queant laxis ré » de résonare
fibris,
mi de mira gestorum, fa de famuli tuorum, sol f,
solve polluti, labi reatum, sante Ioannes, S-I, si.
Eh ben écoutez, merci beaucoup.
C'est bizarre, hein.
Exactement, un peu d'histoire de l'hymne à Saint Jean-Baptiste, et c'était Guidao d'Arezzo, je crois, Florent Chollat, on va pas faire d'histoire, hein, mais c'était un pédagogue justement qui a eu l'idée d'utiliser ces espèces de syllabes de chaque demi-vers de l'hymne à Saint Jean-Baptiste qui a permis de créer cette gamme.
Tout à fait, tout à fait. Je voudrais juste réagir sur ce qui a été dit juste auparavant, parce que il y a quand même un sujet très très intéressant sur la notion de l'autisme et la musique. Parce qu'en fait, il se trouve que j'ai eu la chance de participer à une étude, alors je dirais médico-musicalo-scientifique, à Toulouse avec le CHU, avec un groupe de psychiatres qui s'est passionné pour l'effet de la musique sur la schizophrénie. Et donc nous avons mené une étude dans ce domaine-là, et donc la nouveauté c'était qu'il ne s'agissait pas de musicothérapie mais de cours de musique. Donc j'ai donné des cours de solfège, mais vraiment pour le coup des cours de solfège au sens propre du terme, à des patients atteints de schizophrénie qui étaient donc en stabilisés sur le plan médicamenteux. Et l'étude a révélé, donc c'était une première et nous allons répliquer, nous allons continuer, c'est en cours de construction, a révélé qu'il y avait effectivement sur le plan neurocognitif des choses qui s'amélioraient, et notamment aussi au niveau social, etc. Donc c'est un vrai sujet sur ce pouvoir qu'a la musique sur le cerveau, au-delà même effectivement du langage et des activités plus communes. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez passionnant, et ça donne finalement, au-delà du côté artistique, une dimension quasi thérapeutique à cet art magnifique.
Voilà. Isabelle, bonjour.
Oui, bonjour.
Je vais vous demander de faire rapide si possible.
Oui, merci beaucoup de prendre mon appel. C'est que je suis prof dans un collège, je suis prof de français, moi, dans un collège, mais je suis aussi musicienne et j'ai proposé cette année un petit orchestre dans le collège avec tous les musiciens, les élèves, les professeurs, le personnel. Et donc, j'ai fait le recensement, et après, quand j'ai donné la partition, eh bien, il y en a un certain nombre qui m'ont dit « Mais en fait, je ne sais pas lire, madame. Ah bon ? Alors, ça va être problématique pour jouer dans l'orchestre, parce que tu ne vas pas pouvoir jouer comme ça instinctivement. Il faut que tu joues la partition, sinon ça va être faux. » Du coup, on a été déçus, lui, l'élève et moi, tous les deux. Ça a été le cas pour plusieurs élèves qui n'ont pas pu finalement jouer. Et là, je me suis dit « Bah mince, alors le solfège est quand même important dans la musique pour jouer ensemble. » Sinon, c'est vraiment une déception. Et moi-même, j'ai appris avec l'instrument aussi, pour parler de ça. J'ai appris en même temps, j'ai toujours trouvé ça super.
Les deux en même temps.
J'avais d'abord le cours et tout de suite après l'instrument, dans la même heure, quoi. Et je trouvais ça vraiment super, les deux.
Merci beaucoup, voilà. Isabelle, pour votre témoignage du côté de Limoges. Hervé Platel, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que à quoi ça sert d'apprendre le solfège, c'est notamment pour pouvoir jouer en collectif.
Alors oui, et puis ça c'est vraiment une dimension essentielle. On peut penser à tout un tas d'expériences, et notamment une des expériences internationalement les plus visibles, c'est donc les orchestres El Sistema, au Venezuela, avec justement le fait de faire pratiquer la musique ensemble. Alors au départ, il n'y a pas forcément le solfège, puis le solfège arrive, mais je dirais les vertus en fin de compte de cette pratique musicale donc collective, et que au-delà de vertus que j'ai évoquées, hein, notamment sur l'impact des capacités cognitives et de la mémoire, eh bien je dirais que ça a la vertu d'apprendre l'empathie, de stimuler vos capacités de cognition sociale, c'est-à-dire d'être en capacité d'imaginer ce que ressent l'autre, ce qui se passe effectivement d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue en fin de compte intellectuel, dans le cerveau de l'autre, dans le corps de l'autre. Et ça, c'est assez important pour savoir vivre ensemble.
Florent Chollat, peut-être un dernier mot avant la fin de cette première partie d'émission. Vous, le professeur de formation musicale, un mot pour les parents qui nous écoutent ce matin, qui ont des enfants qui apprennent le solfège, qui montrent quelques difficultés. Que peut-on leur dire ce matin ?
Alors, c'est une très bonne question que vous posez là, Melchior, puisque le rôle des parents n'est pas du tout négligeable dans l'apprentissage de la musique en général, et notamment par rapport au solfège. Il y a deux choses. D'abord, les parents, évidemment, ne sont pas tous musiciens, loin s'en faut, et on rencontre souvent des parents qui sont un petit peu démunis, voire même contris, de dire « je ne sais pas comment aider mon enfant, parce que je ne connais rien à la musique, ou j'en ai fait un peu, mais c'est tellement loin ». Bref, le premier rôle du parent, c'est d'aider l'enfant à ouvrir sa partition et à faire une petite pratique quotidienne. Parce que finalement, la répétition, c'est vraiment c'est la règle d'or pour l'apprentissage. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième aussi, c'est de le féliciter et de l'encourager. Parce que l'enfant a besoin, c'est dur la musique, donc il faut l'encourager, le féliciter. Le professeur doit le faire, mais les parents en premier lieu, bien évidemment.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans cette émission. Florent Chollat, je rappelle que vous êtes professeur de formation musicale et vice-président de l'APFM, l'association des professeurs de formation musicale, à retrouver sur le site internet apfm.asso.fr. Merci Hervé Platel également pour votre témoignage ce matin.
Merci à vous.
Professeur de neuropsychologie à l'université de Caen-Normandie et directeur d'une unité INSERM à Caen. Merci à l'équipe d'ailleurs du Calvados qui vous accueillait ce matin en studio. Ça donne le là pour ces deux heures de Je pense donc j'agis. Puisque dans un instant, on va parler du chant choral, quels sont les bienfaits de la chorale pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Rendez-vous dans un instant avec vos appels au 04 72 38 20 23.